En Éthiopie, la diaspora n'a jamais lâché le pays, surtout quand il en avait le plus besoin. Le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé un message de bienvenue aux millions de personnes, donc de la diaspora, qui ont été invitées à célébrer Noël chez elles. Abiy Ahmed a remercié la forte participation de la diaspora éthiopienne au règlement des problèmes de l'Éthiopie. Nous pouvons affirmer avec confiance que la diaspora éthiopienne à travers le monde a prouvé que notre pays est une nation déterminée quand cela est nécessaire. Lorsque certains se sont mis à piétiner l'Éthiopie, d'autres se sont levés pour dissimuler la vérité sur l'Éthiopie et les autres se sont soulevés pour exercer une pression indue sur le pays. Notre diaspora s'est mobilisée pour l'Éthiopie. Ils ont défié les grandes institutions. Vous avez fait face aux mauvaises politiques des dirigeants occidentaux. Ils ont fait pression sur les médias pour qu'ils reflètent la vérité de l'Éthiopie. Nos membres de la diaspora ont honoré leur pays en étant des diplomates qualifiés pour l'Éthiopie. En plus de défendre le parage donc de la Renaissance, ils ont également accéléré la construction du barrage en envoyant des dons. Ils apportent régulièrement un soutien bienveillant et financier à nos victimes. Lorsque les réserves de change de l'Éthiopie se sont affaiblies, ils ont moins mangé et ont fait des dons à leur pays. Lorsque leur pays est confronté au défi de la survie, ils prennent l'initiative de faire ce qu'ils peuvent pour sortir le pays de l'impasse. Ils ont consacré leur temps et leurs connaissances aux défis auxquels nous sommes confrontés dans les médias sociaux, a-t-il affirmé. Un message qui reflète la grande participation des Éthiopiens aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Ce qui a fait triompher et qui fait toujours triompher, que ce soit l'Éthiopie ou peu importe le pays d'Afrique ou du Moyen-Orient ou de l'Amérique du Sud, c'est exactement ce qui fera triompher l'Afrique, c'est l'union. Ce n'est plus un secret, la seule voie qui chasse le néocolonialisme, c'est bien l'union entre les populations, mais aussi avec les dirigeants. Macron n'a pas du tout aimé le triple message du colonel Assimi Goïta. Le président français sera accueilli à l'aéroport non pas par le chef de l'État malien, mais par Choguel Kokalamaïga, le Premier ministre, qui dans un entretien avec l'agence de presse russe Sputnik le 8 octobre 2021 avait déjà accusé Paris d'avoir offert l'enclave de Kidal à un mouvement terroriste qui a prêté allégeance à Al-Qaïda et d'avoir participé à la déstabilisation du pays. Emmanuel Macron a annulé le déplacement qu'il devait effectuer au Mali le lundi 20 décembre. Et selon un communiqué de l'Élysée, la raison de cette annulation est la situation sanitaire en France, devenue plus complexe que ce que nous pensions. Une explication peu convaincante, car la vérité, ce qui ne sera jamais dit par la France, c'est que Macron n'a pas du tout aimé le triple message du colonel Assimi Goïta. Le président donc français sera donc accueilli à l'aéroport par le Premier ministre malien. Assimi Goïta s'entretiendra avec Macron et non avec Macron accompagné des larmes de la CDAO. Le groupe de sécurité russe Wagner, comme il l'appelle dans les médias occidentaux, et la durée de la transition ne seront pas au centre de discussion donc qu'auront les deux hommes. Pourquoi ? Parce que pour Assimi, non seulement le premier sujet relève de la souveraineté nationale et du secret défense, mais seul le peuple malien est habilité à trancher la question de la durée de la transition au terme des assises nationales en cours. Voici un président africain qui se souvient que c'est un ministre, voire un obscur fonctionnaire du Quai d'Orsay qui est souvent dépêché à Orly ou à Roissy-Charles de Gaulle lorsque les chefs d'État africains sont en visite en France. Voici un dirigeant qui fait enfin ce que d'autres auraient dû faire depuis longtemps, traiter la France chez nous comme elle nous traite chez elle. Voici un homme qui dit aux Africains comme aux Français que les choses doivent changer dans les relations entre la France et ses ex-colonies. Voici un homme qui ne fait pas partie du club des larbins. Le larbin n'est pas capable de dire niette à ceux qui se croient tout puissants et nous avons malheureusement de nombreux larbins parmi les prétendues élites intellectuelles politique africaine. Les grands arrêteront de dominer quand les petits arrêteront de ramper, disait à juste titre le poète et écrivain allemand Friedrich von Schiller. Donc le larbin aime ramper, il a horreur de tout débat qui ose remettre en cause les privilèges des riches et des puissants. Il est obligé de regarder à droite et à gauche avant de se prononcer sur la politique de Macron en Afrique. Sa parole, quand il lui arrive d'en avoir une, est celle d'un homme apeuré et tremblotant. Parce que peut-être il ne supporte pas l'idée que le visa français puisse lui être refusé. Il aura tendance à justifier tout ce que fait la France en Afrique et contre l'Afrique. En bref, l'Afrique doit cesser de produire des larbins promptes à voler au secours d'un pays qui chaque jour perd du terrain et de l'influence à cause de sa mauvaise politique, prompte à considérer les Africains comme les seuls responsables de leurs échecs et impasses. Il est nécessaire et urgent qu'émergent plusieurs Assimi Goïta et Choguel Maïga, c'est-à-dire des hommes et femmes capables de privilégier et de défendre les intérêts des peuples africains, capables de ne baisser ni la tête ni les yeux devant qui que ce soit, capables d'ignorer les ridicules mis en garde de ceux qui, en 6 décennies, ne nous ont apporté que misère, désolation et mort prématurée. Les éternels donneurs de leçons accusent la Russie de s'acoquiner avec des gens peu recommandables, donc alors que Dénard et Baril étaient leurs agents et qu'ils accompagnaient les criminels et buveurs de sang en Côte d'Ivoire et en Centrafrique. Comment peuvent-ils prêcher la vertu alors qu'ils sont comptables de 5 siècles d'esclavage et d'une colonisation qui, au dire de Césaire, ne fut pas civilisation mais barbarie, exploitation et chosification donc du noir. Pense-t-il que l'actuelle jeunesse africaine acceptera d'eux ce que eux-mêmes n'ont pas accepté d'Adolf Hitler? Cette jeunesse sait que les Russes et les Chinois ou bien les Iraniens n'ont monté aucune rébellion en Afrique pour déstabiliser un pays pour leur intérêt ni renverser un président africain qui ne leur plaisait pas. Elles n'ignorent pas qui est coutumier de ces pratiques inhumaines et antidémocratiques, ne qui a donc toujours soutenu les dictateurs et qui lui permettent donc de piller les matières premières de l'Afrique et de s'enrichir sur le dos des Africains. Sincèrement, nous avons tous apprécié et salué le courage et la dignité du colonel Goïta, son refus de s'en rendre à l'aéroport international Modibo Keïta pour accueillir Macron et de discuter avec lui de sujets qui ne concernent que les Maliens, n'est pas sans rappeler le discours prononcé le 20 janvier 1961 par le premier président du Mali devant les diplomates accrédités à Bamako.
Ceux qui opposent en Afrique le bloc américano-occidental et le bloc de l'Est, ce n'est pas la Russie et la France, c'est la Russie et les États-Unis. Les États-Unis ont lancé le printemps arabe et puis le printemps africain pour chasser les Chinois et maintenant les Russes d'Afrique. Et les Français, c'est une puissance secondaire sur le déclin. C'est une puissance qui n'est en Afrique que sous parapluie américain et qui a justifié longtemps sa présence en prétend être pour le compte des Occidentaux le gendarme de l'Afrique ou, comme disait Donald Trump, le shérif de l'Afrique. La France, elle a échoué au Sahel, elle a échoué en Libye, elle a échoué même au sein de l'OTAN, comme est en train de le démontrer la crise actuelle entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie et la France. Et ce qui se passe actuellement, c'est une guerre asymétrique, une guerre hybride, qui oppose la Russie et l'Iran au bloc occidental. Comprenez bien que la guerre hybride, elle est menée par la Russie et l'Iran, mais que les Occidentaux, eux, ne pratiquent pas la guerre hybride. Ils pratiquent la guerre classique, militaire, économique et médiatique. La guerre hybride, c'est la réponse de l'Iran et de la Russie, qui sont deux puissances pauvres, à la puissance occidentale. Il faut donc comprendre que la France, dans le cadre de cette guerre hybride, elle est le maillon faible des Occidentaux et c'est la raison pour laquelle les Russes se sont attaqués en premier à l'ancien précaré français, pas seulement d'ailleurs au Mali ou en Centrafrique, mais également au Congo-Brazzaville, également en Guinée équatoriale, également au Tchad et aujourd'hui dans d'autres colonies non ex-françaises, puisque le conflit s'est déporté en mer Rouge et au Mozambique. Il faut donc comprendre que la guerre qui oppose actuellement la France et la Russie, c'est une séquelle de la guerre qui oppose en fait les Américains et les Russes. Et la Russie s'attaque aux Français parce que ce sont les faibles. Effectivement, la guerre hybride, elle rencontre le succès. Elle rencontre le succès militairement avec les firmes de sécurité. Elle rencontre le succès médiatiquement et elle rencontre le succès géopolitiquement, en particulier dans le golfe de Guinée et dans l'océan Indien et en mer Rouge. C'est donc une défaite globale française et elle annonce d'ailleurs une défaite plus globale du bloc occidental. Les États-Unis sont à la contre-attaque. Ils sont en train de développer depuis une année. Le plan a été préparé par Donald Trump. Il est appliqué par Biden. Il faut arrêter avec tous les discours sur Trump président, nationaliste, anti-système, etc. Les présidents américains, depuis nous en allons parler dans la seconde partie de votre émission, depuis Bush 2, ils font la même politique sous Obama, sous Trump et maintenant sur Biden. On a donc préparé une contre-attaque occidentale. C'est une espèce, tout d'abord politiquement, de super printemps arabo-africain dans une vingtaine de pays. Le renversement d'Omar el-Béchir et le renversement d'Alpha Condé en font partie. Et secondement, il y a le redéploiement des Américains et de l'OTAN. L'OTAN, jusque-là, concernait uniquement l'Afrique du Nord, essentiellement le Maroc et la Libye. Aujourd'hui, la zone d'activité de l'OTAN est en train d'être déployée depuis la Méditerranée jusque la mer Rouge. C'est cela qu'il faut comprendre. La France, au milieu de tout cela, c'est un des points d'attaque de la Russie, mais ce n'est pas le sens principal de la.
Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a décrété dimanche 2 jours de deuil national pour rendre hommage aux 41 personnes décédées le 23 décembre au nord du pays dans une attaque terroriste, a annoncé dimanche le site d'actualité Burkina 24. Selon les autorités, un convoi de supplétifs et de civils a été pris dans une embuscade tendue par des terroristes dans la zone de You, au nord du pays à la frontière malienne. La mission de ratissage sur la zone d'embuscade a établi un bilan de 41 cas, a affirmé le porte-parole du gouvernement Alkassoum Mega dans un communiqué. Le président du Burkina Faso décrète un deuil national de 48 heures, qui a débuté dimanche à minuit. Une caravane commerciale chargée de 699 tonnes de produits algériens s'est ébranlée dimanche à destination de Niamey en marge de l'inauguration de la 35e édition de la manifestation internationale Assihar de Taman Rasset. La caravane, dont le départ a été donné par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamel Rezig, accompagné d'une délégation ministérielle, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme des pouvoirs publics visant la promotion des exportations hors hydrocarbures et la contribution du secteur des transports aux efforts d'impulsion de la dynamique des exportations. Les 22 camions achemine ses exportations vers le Niger, à savoir 576 tonnes de canalisation, 94 tonnes de produits agro-industrie et 20 tonnes de meubles devront parcourir une distance de 1990 km en 7 jours selon les données du groupe public de transport terrestre, de marchandises et de logistique Logitrans. Le gouvernement camerounais accuse la chaîne France 24 de vouloir déstabiliser le pays. Dans un communiqué publié le 24 décembre 2021 par René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, l'on apprend que la télévision française a réalisé un reportage diffamatoire sur le pays de Paul Biya. Le gouvernement camerounais n'est pas très content d'un reportage diffusé le 23 décembre dernier sur les antennes de France 24. Il s'agit d'une télévision française spécialisée dans l'info en continu, dédiée au continent berceau de l'humanité, Afrique. Yaoundé a en effet manifesté son ras-le-bol via un communiqué publié vendredi. Dans un reportage diffusé sur la chaîne de télévision France 24, il est fait état qu'en cette fin d'année 2021, les coûts de denrées de première nécessité auraient atteint des niveaux tellement élevés que de nombreuses familles camerounaises éprouvent des difficultés à se nourrir convenablement. Au Sénégal, le train express régional démarre ce 27 décembre 2021. Le président de la République, Macky Sall, procède ce lundi 27 décembre 2021 au lancement de l'exploitation commerciale du train express régional TER. Projet phare du plan Sénégal émergent, le TER est un système de transport de masse de dernière génération. Du point de vue des caractéristiques techniques, le TER fonctionne en bimode électrique et thermique et doté d'une vitesse de 160 km par heure et circule sur deux voies standards et une voie métrique de 36 km pour chacun, soit 108 km. Pour la première phase, le TER pourra transporter chaque jour pas moins de 115 000 voyageurs.